Chapitre 37. Ilium, Olympos. Et je me révèle incapable de passer à l'acte. Faute d'en avoir les tripes, les couilles, la brutalité, voire, tout simplement, le courage. Je ne peux pas kidnapper l'enfant d'Hector, même pour sauver Ilium, même pour sauver l'enfant, même pour me sauver moi-même. L'aube ne s'est pas encore levée lorsque je me técue dans la vaste demeure d'Hector. J'y suis venu il y a 2 jours à peine, sous l'aspect du lancier d'Olon, aujourd'hui décédé, lorsque j'ai suivi Hector à la recherche de sa femme et de son fils. Comme je connais la disposition des lieux, j'atterris directement dans la nurserie, non loin de la chambre où sommeille Andromaque. Le fils d'Hector, âgé de moins d'un an, dort dans un berceau splendidement ouvragé, protégé par une moustiquaire. À son chevet se trouve la même nourrice qui accompagnait Andromaque sur les remparts de Troie, le soir où Hector a, sans le vouloir, terrifié son fils avec son étincelant cimier. Elle aussi dort profondément, allongée sur sa couche, vêtue d'une tunique diaphane dont le complexe drapé m'évoque une gravure d'Audrey Beardsley. Cette nuisette, conçue suivant le modèle grec ou troyen, fait ressortir la plénitude de ses seins blancs, éclairés par les trépieds disposés près des sentinelles sur la terrasse. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une nourrice au sens premier du terme. Ce détail a son importance, car je dois enlever le bébé et sa nourrice, et déclarer ensuite à Andromaque, usurpant l'aspect d'Aphrodite, que ce sont les dieux qui ont kidnappé l'enfant pour punir les Troyens de certaines fautes que je laisserai dans le vague, et que si Hector veut le récupérer, il devra pour cela venir à Olympos et blablabla. D'abord, je dois prendre le bébé et maîtriser la nourrice, d'un coup de taser si besoin est, malheureusement, car elle est sans doute plus forte que moi, plus forte et plus adepte du combat. Puis me técue avec eux sur cette colline de l'Indiana qui se peuple à grande vitesse, retrouver Knight and Elser, au fait je ne sais toujours pas ce que je vais faire de Patrocle, et le convaincre de surveiller le bébé et sa nourrice jusqu'à ce que je revienne les chercher. Mon ex-collègue sera-t-il de taille à tenir tête à cette Troyenne pendant quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois? Dans un conflit de volonté opposant un universitaire de sexe masculin originaire du XXe siècle à une domestique Troyenne venant de l'an 1200 avant Jésus-Christ, je serais enclin à parier sur cette dernière. Et je ne vous raconte pas la cote. Enfin, Knight and Elser devra bien se débrouiller. Mon boulot, c'est de trouver une raison pour qu'Hector affronte les dieux. Tout comme la mort de Patrocle a su convaincre Achille de prendre les armes contre eux. Et cette raison est en train de dormir devant moi. Le petit Scamandrios, que le peuple d'Ilium attendri a surnommé Astyanax, le maître de la cité, pousse un petit miaulement et frotte ses joues rougies de ses minuscules poings. Quoique invisible grâce au casque d'Hadès, je me fiche et regarde la nourrice. Elle dort toujours, mais je sais qu'un cri digne de ce nom la réveillera presque certainement. Pour une raison que j'ignore, je me défais du casque, devenant visible à mes seuls yeux. Personne n'est là pour me voir, hormis mes 2 victimes, et elles seront à 15 000 kilomètres d'ici dans quelques secondes, totalement incapables de donner mon signalement à d'éventuels flics troyens. Je m'avance sur la pointe des pieds et soulève la moustiquaire au-dessus de l'enfant. Une brise venue de la mer fait frémir les rideaux de la terrasse et la gaze autour du berceau. Sans faire le moindre bruit, le bébé ouvre ses yeux bleus et les pose sur moi. Puis il me sourit à moi, son kidnappeur, alors que je croyais qu'on avait peur des inconnus à son âge, surtout quand les inconnus en question se pointent en pleine nuit dans la nurserie. Mais qu'est-ce que je sais des enfants? Ma femme et moi n'en avons jamais eu, et les élèves auxquels j'ai enseigné durant ma carrière étaient des adultes à moitié ou mal formés, de grands dadais pâteaux et velus, boutonneux et mal dans leur peau. Tout juste si je sais qu'un bébé de moins d'un an est capable de sourire. Mais Scamandrios me sourit en ce moment même. Dans 1 seconde, il va se mettre à brailler et je vais devoir l'attraper, saisir la nourrice et nous técue loin, très loin d'ici, si tant est que je puisse emmener 2 personnes avec moi. Nous serons fixés sur ce point dans 1 seconde. Ensuite, il faudra que je revienne et que je consacre mes 3 minutes d'autonomie à adresser mon ultimatum à Andromaque en usurpant la forme d'Aphrodite. La femme d'Hector va-t-elle sombrer dans l'hystérie? Va-t-elle se mettre à hurler et à pleurer? J'en doute. Ces dernières années, après tout, elle a vu Achille tuer son père et ses 7 frères, elle a vu sa mère devenir l'objet sexuel de ce même Achille et mourir en mettant au monde son fils bâtard, Elle a vu sa demeure familiale envahie et profanée, et elle a tenu le coup. Et non contente de tenir le coup, elle a donné à Hector un fils robuste et sain. Et chaque jour, elle voit Hector partir au combat, sachant que la cruelle volonté des dieux a déjà scellé le destin de son bien-aimé. Non, je n'ai pas affaire à une femmelette. Même Morphéan Aphrodite, j'ai intérêt à garder un œil sur sa manche au cas où elle y aurait planqué une dague réservée aux déesses porteuses de mauvaises nouvelles. Je vais jusqu'à tendre la main vers le bébé et mes doigts aux ongles crasseux s'immobilisent à quelques centimètres de sa chair rose avant de se retirer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Stupéfié de ma propre impuissance face à un terrible destin, un destin universel, car même le triomphe des Grecs s'avérera funeste, je sors de la nurserie en vacillant, sans prendre la peine de recoiffer le casque d'Hadès. Je porte une main au médaillon têtu, marque une pause. Où aller? Quoi que fasse Achille en ce moment, cela n'a aucune importance. Il ne pourra pas conquérir Olympos à lui tout seul, ni appuyé par les Achéens, si les Troyens sont toujours en guerre avec eux. En fait, ma petite supercherie va sans doute se révéler vaine. Hector et ses hordes risquent de terrasser les Achéens ce matin même, pendant qu'Achille sera occupé à s'arracher les cheveux et à pleurer la mort de Patrocle. Pour le moment, Achille n'en a rien à foutre des Troyens. Et lorsqu'il constatera que le mystérieux Cicérone promis par Thétis, cet homme qui doit le conduire à Hector puis à Olympos, n'arrive toujours pas, ne risque-t-il pas de comprendre qu'on s'est joué de lui ? Probablement. Ensuite, la véritable Athénée rendra visite à Achille, protestant de son innocence quand le tueur d'hommes au pied agile lui racontera les événements et peut-être, peut-être, que l'Iliade sera remise sur ses rails. Aucune importance. Mon plan stupide est foutu. Aussi foutu que Thomas Hockenberry, PhD. On ne parlera plus de lui qu'au passé. Mais où aller en attendant d'être désintégré par la muse furieuse ou par une Aphrodite régénérée? Rendre visite à Knighthelser et à un Patrocle Furax? Voir combien de temps il faudra aux dieux pour remonter mon sillage quantique une fois qu'ils auront compris ce que j'ai fait? Essayer de faire? Non, cela signifierait la fin pour Knighthelser. Qu'il reste là-bas dans l'Indiana de 1200 avant Jésus-Christ, qu'il engrosse une jolie indienne, qu'il crée une université pour y enseigner les classiques, même si ceux-ci n'ont pas encore été écrits, loin de là. Et qu'il se débrouille avec Patrocle, que je n'ai aucune envie de tasériser pour le ramener dans la tente d'Achille. Vous me voyez en train de prendre la forme d'Athénée pour lancer « Poisson d'avril, je te rends ton copain, Achille, sans rancune !» Non, je vais les laisser se démerder dans l'Indiana. Où aller? À Olympos? L'idée de la muse en train de me traquer, des yeux omniscients de Zeus, du réveil d'Aphrodite? Non, pas Olympos. Pas cette nuit. Je pense à un lieu, je le visualise, j'actionne le médaillon TQ et je disparais avant d'avoir eu le temps de changer d'avis. Comme je suis visible, Hélène m'aperçoit tout de suite à la douce lueur des chandelles. Elle se redresse sur sa couche et dit « Hockenberry ?» Je reste silencieux, planté dans sa chambre. J'ignore ce que je fous ici. Si jamais elle appelle la garde ou me saute dessus avec sa dague, je suis trop fatigué pour résister, trop fatigué pour m'enfuir. Je ne prends même pas la peine de m'interroger sur ce déploiement de chandelles dans sa chambre à 4h30 du matin. Elle s'avance vers moi, mais elle n'est pas armée. J'avais oublié la beauté d'Hélène de Troie. À côté de son corps svelte, sensuel, que laisse deviner sa chemise de nuit transparente, la plantureuse nourrice de Scamandrios ressemble à un boudin. « Hockenberry ?» répète-t-elle à voix basse. Je suis attendri par la façon dont elle prononce mon nom, fort difficile à articuler en grec ancien. Soudain, je manque éclater en sanglots en me rendant compte qu'elle est le seul être humain sur Terre à connaître mon nom, exception faite de Knighthelser, lequel est peut-être mort. « Es-tu blessé, Hockenberry ?»« Blessé ? Non, je ne suis pas blessé. » Hélène me conduit dans la salle de bain adjacente à sa chambre. C'est là que je l'ai vue pour la première fois. Il y a là des chandelles à profusion, de l'eau dans le bassin. Je découvre mon reflet, les yeux rougis, les joues mangées de barbe, l'air hagard. Je me rappelle que je n'ai pas dormi depuis... combien de temps ? Impossible de m'en souvenir.
« Assieds-toi, »
dit Hélène. Je m'effondre sur le rebord du bassin de marbre.
« Que fais-tu ici, Oakenberry ?»
Je lui réponds d'une voix balbutiante. « J'ai essayé de trouver le pivot. » Et je lui raconte le tour stupide et vain que j'ai joué à Achille, l'enlèvement de Patrocle, mon projet de retourner la guerre contre les dieux afin de sauver tout le monde, toute chose.
« Mais tu n'as pas tué Patrocle ?»
dit Hélène, le regard fixe. « Non, je l'ai emmené ailleurs. »
« En voyageant comme le font les dieux ?»«
Oui. »
« Mais tu n'as pas pu emmener Astyanax, le fils d'Hector. »
Je secoue la tête sans rien dire. Je vois Hélène qui réfléchit, ses beaux yeux sombres perdus dans une songerie. Comment peut-elle croire mes explications ? Pour qui diable me prend-elle donc ? Pourquoi est-elle devenue mon amie, si l'on me permet cet euphémisme, vu ce qui s'est passé entre nous ? Et que compte-t-elle faire de moi maintenant ? Comme en réponse à cette dernière question, elle se lève d'un air résolu et sort de la salle de bain. Je l'entends appeler plusieurs personnes, et comprenant que les gardes vont faire irruption ici dans quelques secondes, je lève la main vers le lourd médaillon têtu. Je ne vois nulle part où aller. Mon bâton taser est encore chargé, mais je ne cherche pas à le saisir lorsqu'Hélène revient. Ce ne sont pas des gardes qui l'accompagnent, mais des servantes, des esclaves. Une minute plus tard, elle s'affaire à me déshabiller, empilant mes vêtements crasseux au pied du mur, pendant que d'autres jeunes femmes versent dans le bassin plusieurs jarres d'eau bouillante. Je les laisse me débarrasser du bracelet de morphing, mais je m'accroche au médaillon têtu. Il ne faudrait pas le mouiller, mais je ne veux pas le lâcher.
« Tu vas prendre un bon bain, Oakenberry, »
déclare Hélène de Troyes, un rasoir étincelant à la main.
« Et ensuite, je vais te raser. Tiens, bois ceci. Cela te rendra ta vigueur et ton esprit. »
Elle me tend un gobelet empli d'un liquide sirupeux.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
La boisson préférée de Nestor, » dit-elle en riant. « C'est ce que buvait ce vieux fou quand il rendait visite à Ménélas, mon époux. Un reconstituant. »
Bien que conscient de ma grossièreté, je renifle le sirop.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Du vin, du fromage et de l'orge.
Hélène prend ma main dans la sienne pour rapprocher le gobelet de mes lèvres.
Ses doigts sont d'une blancheur éclatante sur ma peau brunie par la crasse et le soleil. Mais j'y ajoute un peu de miel pour l'adoucir.
Comme Circé, dis-je en partant d'un rire stupide.
« Qui cela ? Oakenberry ?»
Je secoue la tête.
« Aucune importance, c'est dans l'Odyssée. On s'en fiche. Ce n'est pas pertinent. »
Je bois. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de sabot donné par la proverbiale mule du Missouri. Y a-t-il des mules dans le Missouri en 1200 avant Jésus-Christ, songeais-je distraitement ? Les jeunes servantes m'ont totalement déshabillé, me mettant debout pour m'ôter ma tunique et mes sous-vêtements. Je ne pense même pas à me sentir gêné. Je suis trop fatigué pour cela. Et la boisson reconstituante m'a filé un sacré coup.
« Baigne-toi, Oakenberry. »
Hélène m'offre son bras pour m'aider à entrer dans le bassin fumant.
« Je te raserai pendant ce temps. »
L'eau est tellement brûlante que je frémis comme un petit enfant, puis me baisse avec un luxe de précaution, hésitant à plonger mon scrotum dans cette étuve. Mais je le fais quand même, trop harassé pour lutter contre la pesanteur, et lorsque je m'adosse à la paroi de marbre, laissant les servantes savonner mes joues et ma gorge râpeuse, je ne m'inquiète même pas à l'idée qu'Hélène tienne une lame affûtée tout près de mes yeux et de ma jugulaire. J'ai une totale confiance en elle. Me sentant revigoré par la boisson préférée de Nestor, je décide de proposer à Hélène de me rejoindre si jamais elle m'offre sa couche pour m'y reposer avant l'aube, et je ferme les yeux un moment, quelques secondes à peine. Lorsque je me réveille, Nous sommes en milieu de matinée et la lumière du soleil se déverse dans la pièce par les petites fenêtres au perché. Je suis rasé, propre et même parfumé. Et loin d'être étendu dans le lit d'Hélène, je gis sur la pierre froide d'une pièce vide qui n'est pas sa chambre. Et je suis nu, complètement nu vu que le médaillon têtu a disparu. À mesure que la conscience réinvestit mon esprit, telle l'eau emplissant un bassin percé, je remarque plusieurs lanières de cuir m'attachant à de lourds anneaux. Mes poignets, relevés au-dessus de ma tête, sont fermement liés et attachés au mur. Mes chevilles, quant à elles, sont fixées au sol de la même manière. Il y aurait de quoi être inquiet et mortifié en se retrouvant seul ainsi. Mais en outre, j'ai de la compagnie. 5 femmes se tiennent près de moi et me toisent froidement. Aucune d'elles ne semble d'humeur joyeuse. Je tire sur mes liens, poussé par mon instinct à protéger mes génitoires, mais c'est à peine si je parviens à ramener les mains au niveau des épaules. Et les liens qui me tiennent les jambes m'empêchent de les croiser. Je remarque que les 5 femmes sont toutes armées d'une dague, voire parfois d'une petite épée. Je les connais, ces 5 femmes. Outre Hélène qui se tient en leur centre, il y a Hécube, l'épouse du roi Priam, la mère d'Hector et de Paris, une femme fort séduisante en dépit de ses cheveux gris. À côté d'Hécube, on trouve sa fille, Laodice, épouse du guerrier Hélicaon. À gauche d'Hélène, on trouve Théano, fille de Cissès et épouse d'Anténor, mais aussi, détail qui a son intérêt dans la situation présente, principale prêtresse d'Athénée à Ilium. Cela m'étonnerait qu'elle se réjouisse d'apprendre que le misérable mortel que je suis a usurpé la forme et la parole de la déesse qu'elle a servie toute sa vie durant. En voyant l'expression qu'elle arbore, je devine qu'elle est déjà au courant. Finalement, il y a Andromaque, l'épouse d'Hector, la mère de l'enfant que je projetais de kidnapper pour l'envoyer en exil dans l'Indiana. Son expression est la plus sévère de toutes. Elle se tapote la main d'une longue dague à la pointe effilée. Et elle a l'air impatiente. Hélène s'assied près de moi.
Hockenberry, tu dois nous raconter toute l'histoire que tu m'as déjà contée. Qui tu es? Pourquoi tu observes cette guerre? Ce que sont les dieux et ce que tu as tenté d'accomplir cette nuit?
Pourrais-tu d'abord me libérer? J'ai la langue pâteuse. Elle m'a drogué.
Non, parle. Ne dis que la vérité.
Athénée a conféré à Théano le don de discerner la vérité du mensonge, même chez un homme dont l'accent est aussi barbare que le tien.
Parle. N'omets rien.
J'hésite. Peut-être vaut-il mieux pour moi que je la ferme.
Théano met un genou à terre près de moi. C'est une superbe jeune femme, avec les mêmes yeux gris que sa patronne. La dague qu'elle tient est large, courte, pourvue de 2 tranchants et très froide. Si je peux donner ce dernier détail, c'est parce qu'elle vient de la glisser sous mes testicules, soulevant ceci comme une offrande déposée sur une lame d'argent. La pointe de la dague fait couler une goutte de sang sur mon périnée et mon corps tout entier tente de se contracter, alors même que je réussis à réprimer un cri.
« Dis-nous toute la vérité et rien que la vérité »,
murmure la grande prêtresse d'Athénée.
« Au premier mensonge, je te ferai manger ta couille gauche. » Au deuxième, ce sera la droite. Au troisième, je donnerai les reliefs à mes chiens. Alors je dis tout.
Qui je suis? Pourquoi les dieux m'ont ressuscité pour faire de moi un scoliaste? Mes impressions sur Olympos, ma rébellion contre la muse, mon agression à l'encontre d'Aphrodite et d'Arès, mon plan pour retourner Achille et Hector contre les dieux? Tout. La pointe de la dague ne bouge pas d'un pouce. Le métal reste froid contre ma chair.
« Tu as pris la forme de la déesse Athénée ?»
chuchote Théano.
« Tu as le pouvoir de faire une telle chose ?»«
Ce pouvoir appartient ou appartenait aux outils que je porte. »
Je ferme les yeux et serre les dents, redoutant de sentir le métal me taillader les chairs. Hélène prend la parole.
« Raconte à Hécube, à Laodice, à Théano et à Andromaque ce que sera notre avenir, notre destin. »
« Il n'a rien d'un voyant auquel les dieux auraient accordé ce don, » proteste Hécube. « Il n'est même pas civilisé. Écoutez-le parler. Un vrai barbare. »
« Il admet être venu d'un lieu fort éloigné, »
dit Hélène.
« Il ne peut s'empêcher d'être un barbare. Mais écoute ce qu'il voit dans notre futur, noble fille de Dimas.
Parle, Oakenberry.
Je m'humecte les lèvres. Les yeux de Théano, dont la couleur évoque la mer du Nord, sont ceux d'une fanatique, d'un Waffen-SS. Et Cube, elle, a des yeux noirs qui me semblent moins intelligents que ceux d'Hélène. Les yeux de Laodice sont voilés, ceux d'Andromaque sont étincelants, farouches, dangereusement forts. Que voulez-vous savoir ? Demandai-je. Tout ce que je dirai aura trait au destin de ces femmes, de leur ville, de leurs époux, de leurs enfants.
Toute la vérité, tout ce que tu crois savoir, dit Hélène.
Je n'hésite qu'une seconde, m'efforçant d'oublier la lame féministe de Théano menaçant mes parties intimes. Ceci n'est pas une vision de l'avenir, déclarai-je, mais le souvenir que je garde d'un conte relatant votre avenir, c'est-à-dire mon passé. Sachant qu'un tel propos est sûrement insensé à leurs oreilles, et me demandant si mon accent, quel accent, je ne pense pas parler le grec avec un accent, leur a permis de le comprendre, j'entreprends de leur raconter les jours et les mois à venir. Je leur dis qu'Ilium va tomber, que le sang va couler à flot dans ses rues, que leurs demeures seront incendiées. Je dis à Hécube que Priam, son époux, sera assassiné dans leur temple privé au pied de la statue de Zeus. Je dis à Andromaque qu'Hector, son époux, sera terrassé par Achille sans qu'aucun de ses concitoyens trouve le courage d'aller à son aide, et qu'Achille traînera ensuite son cadavre derrière son char, puis l'emportera dans le campement achéen pour que les soldats lui pissent dessus et que les chiens le dévorent. Puis je lui dis que dans quelques semaines à peine, Scamandrios, son fils, sera jeté du haut des remparts de la cité, que sa cervelle se répandra sur les rochers en contrebas. Je dis à Andromaque que ses souffrances ne s'arrêteront pas là, car elle sera condamnée à vivre et à être emmenée comme esclave dans les îles grecques, où elle finira ses jours au service des hommes qui ont tué Hector, incendié sa ville et massacré son fils. Oui, elle finira ses jours à souffrir en silence, à écouter les héros achéens vieillissants se remémorer en riant le glorieux temps où ils se livraient au viol et au pillage. Pour le bénéfice de Laodice et de Théano, je décris le viol de Cassandre et le viol de milliers d'autres Troyennes, femmes mûres et jeunes filles confondues, sans parler des milliers d'autres qui préféreront le fil de l'épée à un tel avilissement. Je raconte à Théano comment Odysseus et Diomède voleront le palladium sacré dans le temple secret d'Athénée, revenant profaner celui-ci une fois qu'ils auront conquis la cité. Et je précise à la prêtresse qui me tient à sa merci qu'Athénée ne fera rien, strictement rien, pour empêcher viol, pillage et profanation. Et je redonne à Hélène les détails de la mort de Paris et du sort qui l'attend aux mains de Ménélas, son précédent époux. Puis, lorsque j'ai régurgité tout ce que j'ai appris de l'Iliade, j'explique une nouvelle fois que j'ignore si tout ceci se produira, bien que nombre d'événements décrits par l'épopée se soient déjà produits durant les 9 ans et quelques que j'ai passés ici, et je me tais enfin. Je pourrais leur parler du périple d'Odysseus ou bien du meurtre d'Agamemnon en son palais, voire de l'Énéide de Virgile où Troie prend sa revanche en étant à l'origine de la fondation de Rome, mais cela ne les intéresserait sûrement pas. Lorsque j'ai achevé ma sinistre litanie, je fais enfin silence. Aucune de ces 5 femmes ne verse une larme. Aucune d'elles n'a changé d'expression depuis que je me suis lancé dans la description minutieuse du destin qui les attend. Épuisé, vidé, je ferme les yeux dans l'attente de mon propre destin. Elle m'autorise à m'habiller, mais Hélène me fait apporter une tunique propre. L'un après l'autre, elle prend chacun de mes accessoires, le médaillon técu, le taser, le casque d'Hadès et le bracelet de morphing, et me demande s'il recèle une partie du pouvoir que j'ai emprunté aux dieux. J'envisage de mentir, je tiens notamment à récupérer le casque, mais en fin de compte, je dis la vérité sur chaque objet.
Marchera-t-il si l'une d'entre nous cherche à l'utiliser ?
Demande Hélène. C'est là que j'hésite, parce que, en fait, je n'en sais rien. Et si les dieux avaient réglé le taser et le bracelet sur mes empreintes digitales, par exemple, afin que ni grec ni troyen ne puissent en détourner l'usage si jamais ils le ramassaient sur le champ de bataille ? C'est du domaine du possible. Nul scoliaste ne s'est jamais posé la question. Quoi qu'il en soit, l'utilisation du bracelet de morphing et du médaillon técu demande un certain entraînement, et je fais part de ce détail aux femmes. Le casque d'Hadès doit marcher avec tout le monde, vu qu'il s'agit d'un objet volé. Hélène ne consent à me restituer que l'impacto armure qui est intégré à ma cape et à mon plastron de cuir. Elle fourre les cadeaux des dieux dans une besace, les autres femmes lui adressent un signe de tête et nous sortons tous les six. Nous quittons la demeure d'Hélène pour nous diriger vers le temple d'Athénée, empruntant les rues inondées de soleil matinal.
Que va-t-il se passer ? Demandai-je.
Nous parcourons d'un pas pressé les ruelles et les venelles grouillantes de monde, cinq femmes au visage fermé, vêtues de robes noires ressemblant aux burqas des musulmanes du XXe siècle, et un homme dépassé par les événements. Je jette des regards anxieux au-dessus des toits, m'attendant à voir apparaître la muse à bord de son char.
« Silence !» souffle Hélène. « Nous parlerons lorsque Théano nous aura protégés des oreilles des dieux. »
Alors que nous allons arriver au temple, Théano produit une robe noire et insiste pour que je l'enfile. Nous ressemblons tous à des femmes voilées lorsque nous entrons par une porte dérobée et traversons des corridors déserts, six femmes dont une chaussée de sandales de guerrier. Je ne suis jamais venu dans ce temple, et le premier aperçu que j'en ai est tout sauf décevant. Le grand hall est gigantesque, plongé dans une pénombre que perce à grand-peine cierges et braseros. Son atmosphère me rappelle une église catholique, une odeur d'encens imprégnant un espace caverneux où même les échos sont étouffés. Mais en lieu et place d'un autel et d'une statue de la Vierge à l'enfant, cet espace est dominé par la gigantesque effigie d'Athénée, haute d'environ 10 mètres, sculptée dans une pierre blanche, mais avec une peau peinte en rose, des joues et des lèvres bariolées de rouge, des yeux qui semblent taillés dans la nacre. Une effigie tenant un bouclier ouvragé en or massif, caparaçonné dans un plastron de cuivre rouge incrusté d'or et ceinte d'une écharpe en lapis lazuli qui brandit une lance en bronze de 12 mètres de long. Impressionné, je me fige sur le seuil pour la contempler. C'est ici, au pied des sandales sacrées d'Athénée, qu'Ajax le Grand capturera et violera Cassandre, la fille de Priam. Hélène fait demi-tour, m'agrippe par le bras et m'entraîne dans un couloir. Je me demande si je ne suis pas le premier homme à pénétrer dans le saint des saints du temple d'Athénée à Ilium. Le Palladion et le temple lui-même ne sont-ils pas gardés par de jeunes vierges? J'aperçois le regard noir que me lance la prêtresse Théano et je presse le pas. Théano n'a rien d'une vierge, c'est l'épouse du farouche anténor et une femme au caractère bien trempé. Je suis les cinq femmes dans un escalier enténébré débouchant sur une grande cave que n'éclairent que quelques chandelles. Théano parcourt les lieux du regard, écarte une tapisserie, attrape dans les replis de sa robe une clé de forme étrange, l'insère dans un mur apparemment solide qui pivote pour révéler un nouvel escalier assez raide et éclairé par des torches. Nous nous y engouffrons derrière elle. Ce nouveau sous-sol contient un couloir bordé par 4 pièces et on me pousse dans la dernière d'entre elles, relativement minuscule. 6 mètres sur 6 à vue de nez, et meublé en tout et pour tout d'une table en bois de 4 trépieds émettant une chiche lumière, un dans chaque coin, et d'une statue d'Athénée plus petite et plus grossière que celle du rez-de-chaussée. Elle mesure à peine plus d'un mètre.
« Voici le seul et unique Palladion, Auchenberry, »
murmure Hélène. Cette sculpture sacrée, taillée dans une pierre tombée du ciel, est le témoignage de la protection tutélaire d'Athénée. Selon la légende, Troie tombera le jour où elle sera dérobée. Théano et Hécube font taire Hélène d'un regard. Mon ex-amante, parle d'une brève rencontre, vide sa besace sur la table et nous nous asseyons autour de celle-ci, les yeux fixés sur le casque d'Hadès, le bracelet de morphing, le taser et le médaillon Técu. Seul ce dernier semble avoir une quelconque valeur. Pour ce qui est des autres objets, je n'en voudrais pas si je les voyais au marché aux puces. Hécube se tourne vers Hélène.
Dis à cet homme que nous devons nous assurer de la véracité de ses dires. Vérifiez le prétendu pouvoir de ses jouets.
La mère d'Hector et de Paris soupèse le bracelet de morphine. Je sais qu'elle ne peut pas l'activer, mais je lui dis, il ne peut plus fonctionner que quelques minutes. Ne le touchez pas.
Cette femme si distinguée me jette un regard dédaigneux.
Laodice prend le taser et le tourne entre ses mains pâles.
« C'est avec cette arme que tu as terrassé Patrocle ? »
demande-t-elle. C'est la première fois qu'elle parle en ma présence. « Oui. »
« Comment fonctionne-t-elle ? »
Je lui montre comment activer le bâton en pressant trois points et en imprimant une légère torsion. Cette arme est calibrée pour ne répondre qu'au contact de mes doigts, j'en suis persuadé. Les dieux ne sont pas stupides au point de courir le risque de la voir tomber en de mauvaises mains, même si son mécanisme est trop complexe pour être découvert par hasard. Je vais pour expliquer à Laodice et aux autres que moi seul peux travailler avec les outils divins. Laodice braque le taser sur mon torse et l'actionne. Jadis, alors que je randonnais avec Suzanne dans le comté de Brown, en Indiana, la foudre a frappé le sommet d'une colline à 10 pas de moi, me jetant à terre et me laissant aveugle et à moitié inconscient pendant plusieurs minutes. Nous en plaisantions souvent, pensez aux chances pour qu'un tel incident vous arrive. Mais j'avais des sueurs froides chaque fois que j'y repensais. Ce qui m'arrive maintenant est encore pire. J'ai l'impression qu'on vient de me frapper avec un tisonnier chauffé à blanc. Je m'envole de mon tabouret, j'atterris sur le sol de pierre, et je me rappelle avoir tressailli comme un épileptique, des bras comme des jambes, juste avant de m'évanouir. Lorsque je reviens à moi, j'ai mal partout, j'ai les oreilles qui bourdonnent, le crâne qui carillonne, et les quatre femmes, loin de me prêter une quelconque attention, regardent un coin de la pièce où il n'y a personne. Quatre femmes ? Je croyais qu'elles étaient cinq. Je me redresse en position assise, secoue la tête pour me remettre les idées en place et y voir un peu plus clair. Andromaque est partie. Peut-être est-elle allée chercher un guérisseur? Peut-être les Troyennes m'ont-elles cru mort? Andromaque réapparaît soudain dans le coin que fixent les quatre autres. La femme d'Hector ôte le casque d'Hadès et le tend devant elle.
Le casque de mort est conforme à ce qu'en disent les vieilles légendes, déclare-t-elle. Mais pourquoi les dieux l'auraient-ils donné à un être tel que lui?
Elle me désigne d'un hochement de tête et jette sur la table la cagoule de cuir et de métal. Théano brandit le médaillon Técu.
Nous ne savons pas faire fonctionner ceci, dit-elle. Montre-le-nous.
Je suis tellement sonné qu'il me faut quelques secondes pour comprendre qu'elle s'adresse à moi.
Pourquoi le ferais-je? Dis-je en me levant, prenant appui sur la table. Pourquoi vous aiderais-je?
Hélène vient jusqu'à moi et me pose une main sur le bras. Je me dégage.
Hockenberry, ronronne-t-elle. Tu ne vois pas que ce sont les dieux qui t'ont envoyé à nous?
Qu'est-ce que tu racontes?
Je jette un regard inquiet autour de moi.
Non, les dieux ne peuvent pas nous entendre ici, dit Hélène. Les murs de cette pièce sont doublés de plomb. Le plomb empêche les dieux de voir comme d'entendre. Cela fait des siècles qu'on sait cela.
Je la fixe en plissant les yeux. Pourquoi pas, après tout? Le plomb fait aussi barrage à Superman et à sa vision au rayon X.
Et pour quelle raison a-t-on aménagé un caisson de protection dans le temple d'Athénée?
Andromaque s'approche de moi.
Hockenberry, ami d'Hélène. Cela fait des années que nous œuvrons pour mettre fin à cette guerre, nous, les femmes de Troie, Hélène y compris. Mais les hommes, Achille, les Argiens et même nos époux et nos pères troyens ont tout pouvoir sur nous. Ils n'obéissent qu'aux dieux. Et voilà que les dieux, entendant nos prières les plus secrètes, t'envoient à nous pour nous servir d'instrument. Si tu nous aides à accomplir nos plans, nous changerons le cours des événements, sauvant non seulement notre cité, notre vie et celle de nos enfants, mais aussi le destin de l'humanité tout entière. Nous libérons du joug des déités cruelles et arbitraires.
Je secoue la tête une nouvelle fois et j'éclate de rire.
Il y a une petite faille dans ton raisonnement, ma chère. Pourquoi m'enverrait-il à vous afin que je devienne votre instrument alors que votre but est de renverser les dieux? Cela n'a pas de sens.
Les cinq Troyennes me fixent durant un moment. Puis Hélène déclare
« Il y a plus de dieux que n'en rêve ta philosophie, Hockenberry. »
Je la regarde durant une seconde, puis conclue à une coïncidence. Ou alors je n'ai pas bien entendu. J'ai toujours les oreilles qui bourdonnent sous l'effet du taser. « Rendez-moi mes outils, » dis-je pour les mettre à l'épreuve. Elles font glisser vers moi le casque d'Hadès, le taser, le bracelet de morphing et le médaillon Técu. Je brandis le taser comme pour les tenir en respect. « Quel est votre plan ? »
Jamais mon époux ne m'aurait cru si je lui avais dit que la déesse Aphrodite était subitement apparue chez nous pour enlever Scamandrios et sa nourrice, déclare Andromaque. Hector a servi ses dieux durant toute sa vie. Il n'a rien d'un égocentrique comme Achille, le tueur d'hommes. Il aurait conclu que les dieux cherchaient à le mettre à l'épreuve. Il faudrait qu'Aphrodite ou un autre dieu tue notre fils devant témoins, devant Hector lui-même, pour que sa rage se déchaîne. Pourquoi n'as-tu pas tué mon fils ?
Cette question me laisse sans voix. C'est Andromaque qui répond à ma place.
« Tu n'es qu'un crétin sentimental, » crache-t-elle. « Tu as dit que Scamandrios serait jeté du haut des remparts si tu n'altérais pas les projets des dieux. »«
Oui. » »«
Et cependant, tu n'as pas voulu tuer cet enfant qui est déjà promis à la mort, bien que le succès de ton plan en dépende, ton plan pour mettre un terme à cette guerre et remporter le conflit qui t'oppose aux dieux ?»«
Tu es un faible, Hockenberry. » »«
Oui, reconnais-je. » Hécube m'intime l'ordre de m'asseoir, mais je reste debout, le taser à la main. Comment comptez-vous mettre fin à cette guerre? J'ai presque peur d'entendre la réponse à ma question. Andromaque irait-elle jusqu'à tuer son enfant pour parvenir à ses fins? Je la regarde dans les yeux, et j'ai encore plus peur. Nous te dirons quel est notre plan. Répond la reine Hécube, mais tu dois d'abord nous prouver que ces deux jouets fonctionnent ainsi que tu l'affirmes. Elle désigne le bracelet de morphing et le médaillon. Sans les quitter des yeux, je passe le bracelet à mon poignet. Selon la jauge, il me reste moins de 3 minutes d'autonomie. J'enregistre Hécube au moyen de la fonction scan, puis je lance la fonction morphing. La véritable Hécube disparaît comme j'assume son onde de probabilité quantique. Vous me croyez maintenant ? Demandai-je avec sa voix. Je lève le poignet des cubes, et leur montre le bracelet. Puis je sors le taser des replis de sa robe. Les 4 femmes, Hélène y compris, poussent un cri et reculent d'un pas, aussi choquées que si je venais de tuer la vieille douairière d'un coup d'épée bien placé. Plus choquées sans doute. Périr par l'épée n'est pas chose rare dans leur univers. Je désactive le bracelet et Cube réapparaît là où elle se trouvait quelques instants plus tôt. Elle sursaute, bien qu'elle n'ait rien senti, je le sais, et les 5 femmes se mettent à bavarder comme des pies. Je consulte la jauge virtuelle. Plus que 2 minutes 28 secondes d'autonomie. Je passe le médaillon TQ autour de mon cou. Au moins, ce gadget-là ne semble-t-il pas sur le point de se décharger. Vous voulez que je disparaisse et réapparaisse pour vous prouver que ce truc fonctionne bien, lui aussi ? Demandai-je. Et Cube a retrouvé sa contenance. « Non, » fait-elle. « Tous nos plans, les tiens comme les nôtres, dépendent de ta capacité à aller à Olympos sans être détecté et à en revenir. Peux-tu emmener l'une de nous là-bas ? » J'hésite de nouveau. « Je le puis, » dis-je finalement, « mais le casque d'Hadès ne peut rendre qu'une seule personne invisible. Si l'une de vous m'accompagnait à Olympos, elle ne manquerait pas d'être vue. »
Alors tu dois ramener de là-bas un objet qui prouvera que tu y es allé, dit Hécube.
Je lève les mains, les paumes tendues vers le ciel.
Quoi donc, le pot de chambre de Zeus ?
Les 5 femmes reculent à nouveau d'un pas, comme si je venais de proférer une obscénité. Je me rappelle que le blasphème n'a rien de la distraction cynique qu'il est devenu à mon époque, et ce pour d'excellentes raisons. Les dieux sont bien réels, et on ne les insulte pas sans en subir les conséquences.
Je jette un coup d'œil au mur, espérant que le plomb nous protège bien de la curiosité d'Olympos, pas à cause de ma vanne, mais parce que c'est bel et bien un déicide que nous projetons de commettre.
Lorsque je me suis tenu auprès d'Aphrodite lors du jugement des dieux,
dit Hélène à voix basse,
j'ai remarqué que la déesse se brossait les cheveux avec un splendide peigne d'argent, forgé par un dieu artisan. Va dans ses appartements d'Olympos et rapporte-le ici.
Je vais pour lui rappeler ce que je lui ai déjà dit, à savoir qu'Aphrodite repose en ce moment dans une cuve de soins, puis je me ravise. Le peigne en question ne s'y trouve sûrement pas avec elle. D'accord, dis-je, en empoignant le médaillon et en coiffant le casque d'Hadès. Ne bougez pas d'ici pendant mon absence. Comme le casque est en place avant que j'actionne le médaillon, elles ont sûrement l'impression de recevoir un ordre émanant du vide.
J'ignore
où se trouvent exactement les appartements d'Aphrodite. Sans doute a-t-elle la jouissance de l'un de ces édifices blancs bordant le lac du cratère. Mais je me souviens que le jour où elle m'a reçu, allant presque jusqu'à me séduire, le jour où elle m'a ordonné de tuer Athénée, la muse m'avait conduit à elle et nous avait laissé dans une pièce toute proche du grand hall des dieux. Si ce n'était pas ses appartements privés, c'était au moins un studio qui lui a été réservé près du grand hall, une sorte de pied-à-terre olympien. J'apparais dans le grand hall et je retiens mon souffle. Toutes les mezzanines sont vides. Le hall est plongé dans la pénombre et le gigantesque bassin holographique n'affiche que des parasites. Mais plusieurs dieux sont présents, notamment Zeus que je croyais en train d'observer le champ de bataille depuis les pentes du mont Ida. Le roi des dieux est assis sur son trône d'or. Il est entouré de dieux du sexe masculin, parmi lesquels Apollon. Ils mesurent tous 3 mètres au bas mot. Je me trouve à 12 mètres de distance, invisible grâce au casque d'Hadès, mais je manque m'éclipser tellement je redoute qu'ils n'entendent mon souffle. Cependant, leur attention est monopolisée par quelque chose. Au pied du trône, au centre du cercle formé par les dieux, totalement incongru dans un tel contexte, se tiennent ce qui ressemble à un crabe métallique en piteux état, aussi gros qu'une fourgonnette Ford, et un petit robot tout brillant, vaguement humanoïde. Ce dernier parle, et en anglais qui plus est, les dieux l'écoutent, et ils n'ont pas l'air contents.